Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième tranche de l'émission Okapi Service de ce jour. Nous allons parler à présent de la facilitation du commerce transfrontalier et l'intégration dans la région des Grands Lacs. En ligne, Monsieur Célestin Boutchekou-Desrois, il est professeur d'économie et chef du projet des facilitations du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, PFCIGEL. Professeur Célestin Boutchekou-Desrois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission de La Vie au quotidien. On vous retrouve dans quelques instants. Des questions et préoccupations, composez les 099 706 9941. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Encore une fois, bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette deuxième tranche de cette émission de La Vie au quotidien, au Okapi Service. Nous parlons à présent de la facilitation du commerce transfrontalier et l'intégration dans la région des Grands Lacs. Nous allons voir qu'est-ce que cela peut entraîner comme résultat, comme impact dans la région. Et il y a un projet dans ce sens qu'on appelle le projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, un projet du gouvernement congolais avec le financement de la Banque mondiale. Comment se déroulent ces projets? Qui sont les bénéficiaires? Quels sont les résultats attendus? Quels sont les critères de sélection des organisations, des associations et coopératives? Et quelles sont les localités qui sont concernées par ce projet dans la région des Grands Lacs? Eh bien, nous, on aura des réponses à toutes ces questions avec notre invité. Il s'agit de monsieur professeur Célestin Boutchekou-Desrois, il enseigne l'économie et il est chef du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, PFCIGEL. Professeur Célestin Boutchekou-Desrois, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Alors, dites-nous, la première question est de savoir quels sont les objectifs de ce projet du gouvernement congolais, dénommé un projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs.
Oui, l'objectif principal du projet est de faciliter les échanges et d'améliorer la commercialisation des chaînes de valeur en ciblant principalement les petits commerçants et les femmes commerçants dans la région des Grands Lacs.
Voilà, c'est ça l'objectif du projet. Alors, quand est-ce que ce projet a été lancé? Parlez-nous du contexte dans lequel ce projet a vu le jour.
En fait, le projet a vu le jour depuis le 1er février 2023. Son souci, c'est d'appuyer les commerçants transfrontaliers qui sont localisables dans la région est de la République démocratique du Congo. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux visant à renforcer l'intégration économique à améliorer la sécurité alimentaire et promouvoir une croissance inclusive et durable à travers le développement du commerce transfrontalier entre la RDC et le Burundi. Et donc, le projet intervient et concerne cinq frontières du Burundi.
OK. Voilà, donc le projet c'est entre le Sud Kivu et le Burundi. Alors vous avez parlé de des commerçants ceux qui exercent le commerce transfrontalier. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont concernés par ce projet, d'autres bénéficiaires disons?
Les autres acteurs ce sont les commerçants transfrontaliers d'abord, qui sont impliqués dans des chaînes de valeur, mais aussi les acteurs impliqués dans la transformation de chaînes de valeur ciblées.
D'accord. Et quelles sont ces chaînes de valeur ciblées, le commerce transfrontalier entre la RDC et le Burundi? Quels sont les produits qui sont ciblés par le projet? Comment se fera concrètement cette chaîne de valeur?
Le projet a ciblé cinq chaînes de valeur, à savoir la chaîne de valeur pour vendre. Nous avons aussi ciblé la chaîne de valeur café. On a aussi ciblé la chaîne de valeur tomate et la chaîne de valeur lait et patates douces.
Voilà. Et pourquoi avoir ciblé ces produits agricoles?
On a ciblé ces produits agricoles parce que ce sont des produits qui sont échangés entre les pays voisins de l'Est de la RDC. Parce que le souci du projet, et donc du gouvernement, c'est de booster les échanges. Parce que il s'est avéré que la RDC recevait plus de produits des autres pays, mais ne leur exportait presque rien en matière de produits agricoles. Voilà pourquoi, en appuyant ces chaînes de valeur, on pense booster la transformation et améliorer la valeur ajoutée. Et en améliorant la valeur ajoutée, on veut aussi jouer sur la compétitivité de ces produits au niveau de la région. Ce qui fera à ce que les échanges ne puissent plus se faire à sens unique, mais que les échanges se fassent d'une manière réciproque. Et donc, si je prends l'exemple de la provenderie, vous savez qu'elle implique plusieurs chaînes de valeur, elle implique les riz, les maïs, les soja, les maniocs. Donc, si on mélange ces produits ensemble, il y a moyen de produire des aliments pour les animaux, pour les poissons, et cela va booster les échanges entre les pays. Donc, au lieu que nous achetons des produits de la provenderie en provenance des pays voisins, alors que nous en détenons des matières premières, on va devoir leur vendre ces produits déjà transformés. Et dans ces conditions-là, nous allons non seulement vendre aux fermes locales, mais aussi nous allons inonder les marchés de la région, parce que la République démocratique du Congo a des potentialités énormes dans la production de produits primaires qui entrent dans la production des provenances.
Bien, si on prend par exemple l'exemple du café, est-ce que le projet va soutenir, par exemple, les producteurs du café jusqu'à ceux qui vont faire le transport, transformation, etc., jusqu'à la distribution? Comment ça se fera concrètement, professeur Célestin?
Pour les cafés, nous voulons soutenir. En fait, il faut préciser, les projets interviennent au niveau des post-récoltes, donc en anglais post-harvest.
OK. Après
donc,
la récolte.
On fait la collecte, on appuie la collecte des produits du café. On appuie la transformation. Parce que au lieu qu'on achète un café, le café moulu en provenance des pays voisins ou le Nescafé en provenance des pays d'Amérique latine ou d'Asie,
oui.
Pourquoi ne pas soutenir les producteurs locaux, qui sont d'ailleurs nombreux dans le milieu, afin qu'ils nous produisent les cafés qui seront vendus dans les restaurants, dans les hôtels, et aussi exporter une grande partie à l'extérieur.
Bien, je comprends. Donc, le projet n'appuie pas les producteurs. C'est juste après la récolte que maintenant le projet intervient pour soutenir la chaîne des valeurs. Peut-être que certains vont se positionner dans l'emballage, dans les emballages, et d'autres chacun va se positionner quelque part. Nous allons accueillir les auditeurs qui appellent déjà pour en savoir un peu plus. Jérémy Mwamba nous appelle depuis Lubumbashi, voilà, et puis nous avons Thomas de Kisangani. Jérémy, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jordi et bonjour également à l'invité. Je pense que les projets, n'est-ce pas, présentés par le gouvernement en rapport avec le commerce transfrontalier, vraiment est à saluer à juste valeur, parce que, vous savez, notre pays est victime de plusieurs abus, entre autres les pays voisins qui l'entourent. C'est là que je voudrais ici dire que ce que le gouvernement met en place, c'est juste un dispositif pour montrer que notre pays a été toujours très hospitalier vis-à-vis d'autres pays qui nous entourent. Mais il revient maintenant de pouvoir exercer, n'est-ce pas, ce domaine avec beaucoup plus de vigilance pour que réellement notre pays trouve son compte. Parce que lorsqu'on parle de commerce transfrontalier, ce qui veut dire que il s'agit bel et bien de l'échange. Qui doit être les échanges qui doivent être au centre du socle, et puis en même temps et l'importation et l'exportation doivent, n'est-ce pas, être bien coordonnées quant à ce. Maintenant, il se pose un problème. Notre pays, vous savez, produit beaucoup parce que on doit partir de certaines questions que l'on doit se poser pour savoir quels sont les biens et services à produire. Et deuxièmement, il faut qu'on le sache. Comment produire ces biens et services et à qui, c'est ça ce qui m'intéresse un peu le troisième point, à qui délivrer ces biens et services. Maintenant, lorsque notre pays ouvre les horizons dans ce sens, il faut nécessairement qu'il y ait ce qu'on appelle l'échange harmonieux. Pourquoi? Parce que ça peut aussi booster à ce que les problèmes tels que des conflits, les problèmes sécuritaires soient résolus. Parce que lorsque deux nations entrent en échange, donc c'est-à-dire il y a échange donc commercial, ça peut amener à ce que la quiétude de deux ou trois peuples soit trouvée. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui notre pays s'ouvre aux autres? Je vais vous donner l'exemple du Rwanda qui est avec nous, c'est notre pays voisin. Je pense que le Rwanda a ce qu'il produit, la RDC a aussi sa production. Mais lorsqu'il y a échanges commerciaux dans ce sens, il faut nécessairement qu'on puisse appuyer sur les leviers de résolution des problèmes, des conflits.
D'accord,
c'est
merci.
Là que nous disons que je termine avec ce point pour dire que il faut nécessairement qu'on puisse élargir ce point, que ça soit donc ça dit des échanges commerciaux au vrai sens du mot et non dans la forme et on oublie le fond. Parce que c'est le fond qui doit intéresser, parce qu'il faut que chaque partie soit satisfaite, parce que en marketing, qu'est-ce qu'on nous dit? Autant qu'il y a un producteur, autant qu'il y a aussi, donc c'est-à-dire les consommateurs, il faut nécessairement que les consommateurs finaux soient satisfaits. C'est en ce moment-là
qu'on sait
que l'échange a eu son...
D'accord, merci. On a compris votre préoccupation, Monsieur Jérémy Mwamba. On va donner la parole à Thomas qui nous appelle de Kisangani. Boyoma Singa Mwambi. Thomas, bonjour.
Bonjour, c'est jeudi. Et bonjour à l'invité, ce qui est une fois de plus à tous les auditeurs de la radio Okapi. Avant de poser mes quelques préoccupations que j'avais, Monsieur jeudi, permettez que je puisse placer également et mon monsieur Jody. L'initiative de développer en tout cas le commerce transfrontalier dans les pays des Grands Lacs, dans la région des Grands Lacs est vraiment salutaire. Mais qu'à cela, il y a également des défis
liés à cela. Et c'est, par exemple, les problèmes liés aux infrastructures, monsieur Jody. Les infrastructures, est-ce que... J'ai évité à parler de ça, mais il faut voir l'état de nos infrastructures également, parce que ça aussi, ça va jouer. Il faut qu'on puisse avoir des infrastructures, des transports adaptés, monsieur Jody. C'est également très important. Il faut qu'il y ait les infrastructures. Mais également, il y a la province du sud de Nord Kivu et Sud Kivu. Parce qu'elle évitait à parler de ça. C'est entre la province du Sud Kivu et le Burundi.
Oui.
Rien ne marche dans ces régions-là. Il y a les sécurités, il y a les M23. Et tout ça, je sais pas par rapport à ça. Les conflits aussi et l'instabilité aussi doivent jouer par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi c'est mal le choix des sites Kivu, alors qu'on sait que la province du Nord Kivu, bref, à l'est, il y a les sécurités. Ça aussi, on doit voir si cet aspect-là. Mais également, il faut qu'il y ait également, pour résoudre ces problèmes-là, il faut que la stratégie doit être mise en place pour développer, en tout cas, surtout à passer par l'amélioration des infrastructures, oui. Mais également l'harmonisation des réglementations commerciales. Je crois pour ça ne pose pas de problème, parce que la RDC, nous appartenons actuellement à l'EAC. Là, il n'y a pas, en tout cas, trop de problèmes par rapport, parce que nous partageons, nous sommes dans la communauté de l'EAC, il n'y a pas de problème quant à ça. Mais j'aimerais poser directement mes quelques préoccupations que j'avais au professeur. La première question, quelles sont les principales barrières qui entravent les commerces transfrontaliers dans la région des Grands Lacs? Ça, c'est la première question que j'aimerais poser à l'invité. La deuxième question, quelles sont les initiatives de coopération régionale qui pourront être mises en place pour favoriser, en tout cas de manière efficace, les commerces transfrontaliers? Et je vais citer par la troisième question, monsieur Jody, comment promouvoir également les produits locaux afin d'améliorer la compétitivité sur les marchés d'emploi? Parce que ça aussi, on doit encourager l'initiative ou les produits locaux, mais je ne sais pas quelles sont, en tout cas, quelles sont de façon concrète, comment on doit promouvoir, en tout cas, efficacement les produits locaux, surtout dans les buts qui soient pour faciliter la compétitivité sur les marchés régionaux. C'est pas ça, mais trois petites préoccupations que j'avais au professeur, monsieur Jody.
Merci, Thomas de Kisangani. Monsieur Célestin Boutsekou-Deroy, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je crois que je viens à le dire, dans les montages des projets, on a tenu compte d'aspects d'ordre infrastructurel. Donc, mais il faut dire qu'on doit y aller d'une manière séquentielle. Donc, en matière d'infrastructure, c'est pluriel. Il y a les infrastructures aux frontières, il y a les ports, il y a les routes.
Il y a les marchés.
Il y a les marchés. Et donc, le projet n'a pas pris tout, mais il a essayé de prendre en compte les infrastructures qui facilitent les commerces, à savoir l'amélioration des infrastructures aux frontières, donc les bâtiments frontaliers, afin de permettre un traitement humain des usagers. Mais aussi, le projet a retenu la construction des marchés transfrontaliers où les produits seront échangés. Mais aussi, on a prévu de moderniser les ports de Kalundu, qui est le deuxième port du pays. Cela va faciliter à ce que les produits soient échangés avec les pays voisins. Je parle ici du Burundi, de la Tanzanie et même avec le reste du monde. Donc, nous avons retenu quand même aussi des routes d'accès qui fait jonction avec la nationale numéro 5. Et je crois qu'il y a d'autres projets du gouvernement qui s'occupent actuellement de la modernisation ou de la réfection des routes, que ce soit des routes nationales ou des routes de dessertes agricoles. Je suis tout à fait d'accord avec la personne qui a posé la question, M. Thomas, que les infrastructures posent problème pour notre pays. Mais on est en train de développer certaines choses. S'il passe aujourd'hui à Kassindi, au Nord Kivu, il va rencontrer qu'on a un poste digne de nom, où les agents aux frontières fonctionnent d'une manière optimale. Il a posé une question concernant les principaux obstacles au commerce. Il y a, si on peut parler des obstacles, on peut trouver les obstacles d'une façon, je peux dire binomiale, si je peux dire. Il y a les obstacles tarifaires et les obstacles non tarifaires. En matière d'obstacles tarifaires, il faut reconnaître que la RDC a des taxes plus élevées que les autres pays. Et cela fait souvent que c'est plutôt nous qui recevons des produits des autres pays et nous les vendons moins de produits. On est en train d'harmoniser dans le cadre du COMESA qu'on puisse appliquer le régime commercial simplifié où les droits des douanes, où les commerçants transfrontaliers qui font traverser les produits ne payent pas des droits des douanes. Mais aussi, on s'attelle aux barrières non tarifaires, telles que le temps que les gens passent à la frontière, telles que les quotas liés aux marchandises, telles que même les questions de nombreux services à la frontière.
Oui.
Il y a la qualité des marchandises qui sont vendues. Sur cette base, il y a une composante du projet, une sous-composante du projet qui concerne la certification. C'est que la barrière liée à la certification qui concerne l'emballage des marchandises, les normes de qualité, ce que les produits ont été transformés d'une manière acceptable, est-ce qu'elles répondent à toutes les exigences en termes d'exportation. Nous avons eu une réunion, par exemple, avec les bureaux burundais de normalisation, et on est en train de signer des accords de reconnaissance mutuelle entre l'Office congolais de contrôle et les bureaux burundais de normalisation. On travaille aussi avec les autres organismes impliqués dans les normes et mesures espèces pour ce qui est des produits agricoles, afin que nos produits, lorsqu'ils traversent la frontière, ils ne puissent pas être refoulés pour problème de normes. Donc, pour ce qui est de temps passé à la frontière, parce que c'est aussi un problème,
oui.
On travaille toujours sur l'évaluation de l'état. Du temps qu'un commerçant, qu'un migrant passe à la frontière en minutes. Donc, cela fait partie des indicateurs du projet. On essaie de les réduire au maximum pour que les gens ne puissent pas traîner à la frontière.
Bien.
Et pourquoi d'ailleurs, les frontières seront à arrêt unique pour que la personne qui traverse ne puisse accomplir les formalités que dans les pays de destination. Et donc, il serait traité à ce niveau-là par le migrant congolais et les migrants burundais au même moment.
Bien. Et une autre question de Thomas est de savoir pourquoi ce projet est implémenté seulement au sud Kivu, pourquoi pas dans les autres provinces. Et puis, Jérémy Mwamba a dit, est-ce que les échanges commerciaux peuvent favoriser la paix et la sécurité dans la région?
Oui, je peux le dire bien. C'est pas moi d'ailleurs qui l'ai dit, c'est depuis le 16e siècle avec Montesquieu. Nous, les économistes, on sait que si on échange avec un voisin, cela peut amener la paix. Mais il y a des conditions. Il faut que les dialogues soient francs entre les pays. Moi, je crois pas que parce que nous sommes en guerre avec le Rwanda, que cela puisse être général. Et toute chose a une fin. La guerre prendra aussi fin. Et on sera toujours obligé de commercer avec les Rwandais parce que c'est un pays voisin. On ne change pas de voisin. Le plus important, c'est que je crois qu'il y a je ne suis pas politicien de toute façon, il y a les efforts que le gouvernement est en train d'entreprendre pour rétablir la paix. Mais en même temps que le gouvernement réfléchit, ça ne nous empêche pas non plus au niveau du pays de voir comment rendre nos produits plus compétitifs compétitif pour que, une fois la paix rétablie, nous puissions vendre avec ces pays. Avant 95, c'est la RDC qui exportait à ces pays. Et donc avec la guerre, je crois qu'il y a eu un renversement des tendances. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui a conduit à ce que ce renversement des tendances puisse apparaître. Je crois que on a délaissé notre industrie et il est maintenant question de voir comment nous pouvons reprendre la main, parce que ce ne sont pas les potentialités que la RDC manque.
D'accord.
Mais il faut que cette potentialité soit rendue possible. Mm-hmm. Les potentialités, s'ils ne sont pas transformées en richesse, ça reste quelque chose qui n'a pas de sens.
Bien, Monsieur Célestin, par rapport à l'autre question, pourquoi seulement le Sud Kivu? Pourquoi seulement le choix du Sud Kivu?
Pourquoi seulement le choix du Sud Kivu? Donc, je crois que c'est un projet régional. Ce n'est pas un projet comme tous les autres. Pour mettre en place un projet régional, il faut qu'il y ait un besoin de notre pays. Et donc, le Burundi s'est retrouvé être voisin de la RDC et être membre du COMESA et de l'EAC. Mmh. Et la demande du... le gouvernement, en faisant la demande au niveau de la Banque mondiale, les fonds du financement du projet se retrouve à la fois être une partie financée par la Banque mondiale congolaise, donc le bureau de la Banque mondiale du Congo, et aussi les bureaux régionaux qui se trouvent à Nairobi. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là qu'on ne pourrait pas mettre ces projets en marche sans associer notre pays. Et comme je l'ai dit à les rappeler, ces projets donc répondent à un effort régional visant à renforcer l'intégration économique. Et on commence par le Sud Kivu. Le premier projet, c'était en 2022, c'était avec le Rwanda et l'Ouganda. Je crois qu'on est en train d'y aller au fur et à mesure. Et je crois qu'il y a d'autres efforts d'autres bailleurs qui ne sont pas localisés au Sud Kivu, mais qui sont localisés dans les autres frontières de la RDC, avec les pays voisins comme l'Angola, la Zambie. Et dans l'avenir, nous sommes au début. Dans l'avenir, le gouvernement va décider quelle autre province intégrer dans la facilitation du commerce et chercher des financements, pourquoi pas internes, mais aussi externes, pour booster les échanges.
Bien, on va accueillir Éminent Mwanda de Bukavu, au Sud Kivu, et Maître Gaston Gandou nous appelle de Kinshasa. Éminent de Bukavu, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis bonjour à l'invité et je salue vraiment la pertinence du débat de ce matin.
Quelle est votre question?
Très bien. Oui, j'ai une préoccupation et une inquiétude parce que quand l'invité nous explique bien que, quand il avait même répondu à la question des membres et des affaires du choix du site Kivu, contrairement aux autres provinces, moi je sais très bien que ça c'est un projet qui vient matérialiser. L'accord d'intégration économique qui est déjà signé, je crois, à Washington. Bon, la question est de savoir comment ce projet est vraiment sera applicable, en fait, sera effectif ici aussi que vous, sachant la situation dans laquelle la grande partie de cette province est en train de traverser. Comment le gouvernement est en train de coordonner cette action, ce projet? Dans quel mécanisme et par quel moyen? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, quelles sont les conditions, soit les modalités qui ont été définies pour le choix du Sud Kivu? C'est pas au lieu d'autres provinces de la RDC, je suis du Sud Kivu, mais je doute que ce projet-là ne puisse pas être une façon d'infiltration ou quoi, soit de matérialisation de certains plans magnifiques. Mais nous savons très bien qu'actuellement, on ne peut pas aussi tout sacrifier parce que nous sommes dans cette situation ici d'insécurité. Mais nous devons savoir par où commencer, qu'est-ce que nous devons faire afin d'éviter le pire. Nous sommes en train de veiller beaucoup plus d'abord pour une paix durable, monsieur Jody. Mais nous ne pouvons pas aussi nous attirer d'autres amis qui peuvent aussi nous créer d'autres problèmes inutilement. Le projet étant bon, mais nous devons vraiment étudier les faisabilités pour que ce projet-là soit rentable et bénéfique aux populations congolaises.
Sinon, bien, merci.
Nous ne pouvons pas toujours...
D'accord, merci beaucoup. Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui. Invité aussi.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la facilitation du commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs?
Bon, je pense que il existe déjà des organisations, entre autres la TRGL, mais aussi EAC, que les deux États ici font partie. Entre autres, il peut ajouter presque tous les États voisins à l'Est, là-bas, font partie de ces organismes. Voilà. Ces organisations visent, entre autres, principalement l'intégration économique de l'État. J'imagine aussi que le projet qui va évoluer dans le cadre de ces organisations-là, comme vous avez cité CRGL, on va plus créer d'autres organisations entre des États pour appliquer ces projets. Le projet en soi vise, il veut que nous puissions aussi vendre sur le territoire des autres comme ils vendent chez nous.
Oui.
Parce que ces organismes prévoient, entre autres, la suppression des barrières douanières. Je pense que le prophète de Joseph va expliquer là-dessus. Il existe aujourd'hui la suppression des barrières douanières entre les États membres, mais aussi la zone de libre-échange pour les marchés communs. Parce que ça, sont là les objectifs qui sont prévus dans le cadre de ces organisations-là. Alors, depuis longtemps, on a toujours facilité les autres États qui viennent vendre chez nous ici, autant payer les douanes, des trucs comme ça. Et nous ne vendons pas chez eux. C'est pour ça, peut-être, on veut que nous puissions vendre. C'est un projet encouragé. On va voir la concrétisation dans les temps. Et j'imagine que ce n'est pas seulement la province quittée qui est censée vendre dans toutes les autres provinces de la RDP. Étant donné que les mécanismes existent déjà, ils peuvent aller vendre là-bas et bénéficier des avantages qui sont accordés dans le cadre de ces organisations aussi.
Merci, Maître Gaston.
J'imagine.
Merci.
La question, professeur.
Oui.
À quoi est-ce que ce projet est différent de, soit ce projet bilatéral est différent de l'accord qu'on vient de signer avec le Rwanda, c'est l'intégration économique entre les deux pays, Rwanda, RDC et celui-ci, Burundi, visant l'intégration, quoi.
Merci.
Économique.
D'accord. D'accord, merci. Éminent Mwanda, professeur Célestin, il dit comment la RDC va coordonner, va implémenter ce projet avec l'occupation du Sud Kivu aujourd'hui par les M23 et les autres rebelles dans la région. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette question?
J'ai signalé au début que le projet a été mis en vigueur depuis le 1er février 2023. Donc, ça fait presque 2 ans et demi que le projet est mis en œuvre. Et le projet concerne les frontières du Sud Kivu à la de l'île d'Idjoui jusqu'à Uvira. Et donc, actuellement, le projet est mis en œuvre sur le site d'Uvira. Donc, je prends la frontière d'Imparambo avec le Rubenga, donc vers le Vungi, Sangue avec la province de Chibitoke, et puis Uvira, Kavivira avec Gatumba comme frontière burundaise, et les ports de Kalundu. Donc, le projet continue à travailler dans la partie congolaise contrôlée par
le gouvernement.
Je crois qu'on avance avec la mise en œuvre. Nous arrivons à appuyer les bénéficiaires. Et pour le reste, le gouvernement a pris des dispositions utiles pour la continuité de la mise en œuvre. Je crois que nous en sommes.
Bien. Alors, une autre question est de savoir, quels sont les résultats, avant de poser les questions de Gaston, quels sont les résultats qui sont attendus à l'issue de ce projet? Et ce projet va durer combien d'années, professeur Célestin?
Le projet va de 2023 à 2028. Donc, les principaux résultats du projet, c'est la modernisation des infrastructures frontalières, l'amélioration des conditions de vie des commerçants transfrontaliers. Mmh. Et il y a un volet appui à la transformation des chaînes de valeur qu'on a évoqué au début, mmh. où nous avons l'objectif d'appuyer des associations et coopératives des entrepreneurs impliqués dans la transformation des produits agricoles. Donc, on envisage quand même appuyer autour de 300 associations
oui.
qui pourront permettre à ce que la RDC exporte des produits de haute valeur ajoutée.
Et quelle est la nature de cet appui? C'est un appui technique, financier? Comment ça se fera?
L'appui a deux volets. Il y a un volet subvention et un volet appui technique.
Mmh. Alors, par rapport au volet subvention, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Comment ça va se passer?
Par rapport au volet subvention, le projet a recruté la firme qui est Deloitte pour appuyer dans la mise en œuvre des gestions des mécanismes de subvention.
Voilà. Donc, comment les 300 associations seront subventionnées? Quelle sera la procédure? Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée? Quand est-ce que ça va commencer?
Depuis le mois de décembre 2024, on a recruté cette firme. Cette firme est en 5 étapes. La première chose, c'est l'identification des candidats bénéficiaires potentiels. La deuxième étape, c'est l'appel à proposition auprès des candidats potentiels. Si j'ai dit l'appel à proposition, c'est qu'il y aura une compétition de business plan. Donc, où les candidats potentiels pourront
soumettre
à cela,
oui.
et soumettre leur business plan. Mm-hmm. Et l'équipe de la firme qui va entreprendre Deloitte se chargera d'évaluation et de sélection des candidats. Une fois que les candidats seront sélectionnés, ils pourront bénéficier des fonds qui peuvent être des fonds à coût partagé. Tout va dépendre de la manière dont on va arriver à identifier les potentiels bénéficiaires.
Bien, j'imagine si les petits commerçants, les associations des femmes doivent soumettre les business plans, peut-être que certains ne savent même pas ce que ça signifie, ils n'ont pas appris ils n'ont peut-être pas formalisé leurs activités, tout ça. Alors, est-ce que vous avez connu, vous tenez compte de toutes ces difficultés-là, ou tous ces paramètres?
Oui, le projet a prévu un renforcement des capacités à 3 degrés. Première chose, les candidats identifiés qui pourraient être des bénéficiaires potentiels vont être appuyés en termes de renforcement des capacités pour qu'elles puissent au moins atteindre les exigences et afin d'être sélectionnés. Après que les candidats seront sélectionnés, ils bénéficieront encore d'une formation pour que leur business plan soit vraiment bancable. Et après cela, une fois qu'ils auront reçu les subventions, ils pourront être accompagnés afin que les produits qu'ils mettront sur le marché puissent atteindre les normes de qualité dont on a parlé au début.
Bien, est-ce que un commerçant peut venir seul avec son business plan ou bien vous travaillez seulement avec les associations, les regroupements?
Non, un commerçant individuel ne pourra pas bénéficier de notre appui. Nous travaillons seulement avec les groupements. Soit vous êtes une association, soit vous êtes une coopérative, soit vous êtes un réseau d'entrepreneurs qui travaillent ensemble, qui poursuivent un objectif commun.
Ouais. Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Nous parlons de la facilitation du commerce transfrontalier et l'intégration dans la région des Grands Lacs. Nous avons en ligne Néron Patrick depuis Mouenéditou dans la province de la Lomami et Blaise Saïdi est à Kisangani. Néron Patrick Kadiata de Mouenéditou. Bonjour.
Bonjour, chers amis. Bonjour à l'invité et aussi à tous les auditeurs et les auditrices de la radio Okapi. Oui, chers journalistes, moi j'ai une petite contribution à propos des crises auxquelles notre pays fait face. Tout d'abord, je salue les initiatives prises par ces organisations. Mon premier point serait que il faudrait d'abord déstabiliser les troupes qui occupent les territoires congolais, puisque avec la déstabilisation de ces troupes-là, bon, le pays peut quand même être libre. Donc la population peut être libre de faire leur commerce, bon, dans tous les domaines presque. Alors le deuxième point est que les ministres des Affaires étrangères et Affaires intérieures de ces pays des Grands Lacs doivent s'engager d'abord en matière pour la construction des quoi, des infrastructures routières, des édifices qui leur permettront d'évaluer leurs travaux, leurs associations pour la paix quand même et le soulagement de la population de la RDC et
merci.
En particulier de l'Est.
D'accord.
De la...
Merci Néron Patrick. On va donner la parole à Blaise Saïdi Dekissam.
J'ai une petite question que je voulais poser à l'invité.
Oui.
Cher journaliste. Oui, en tout cas, je l'ai entendu parler de la durée, je ne sais pas, de ces associations. Pourquoi pas ne pas laisser ces groupements-là éternellement dans ce pays? Pourquoi seulement donner peut-être une durée pour encore faire souffrir la population à la longue? Merci.
Bien. Blaise Saïdi de Kisangani, bonjour.
Bonjour cher Jody, bonjour à l'invité, bonjour aux auditrices et auditeurs de la radio Okapi.
La question blessée.
Cher Jody, les commerces transfrontaliers dans la région des Grands Lacs africains représentent un puissant levier de développement économique, de cohésion sociale et de paix durable. Son amélioration exige des réformes profondes et concertées, notamment dans les domaines des infrastructures, de la sécurité, de la simplification douanière et l'intégration régionale. Je dois aller tout juste à quelques questions à l'invité. La première question, cher Jody, quelles mesures concrètes les États de la région des Grands Lacs peuvent-ils adopter pour réduire les tracasseries frontalières? La deuxième question, la digitalisation peut-elle remplacer totalement les procédures physiques aux frontières? Pourquoi ou pourquoi pas? La troisième question, quelles seraient les conséquences positives d'un commerce transfrontalier pleinement intégré pour la population locale? Et pour citer cher Jody, pourquoi est-il essentiel d'intégrer les femmes dans les politiques de développement du commerce frontalier? Voici les petites préoccupations que l'invité peut quand même éclairer l'opinion, cher Jody. Je vous remercie.
Merci Blaise Saïdi depuis Kisangani. Nous parlons de la facilitation du commerce transfrontalier et l'intégration dans la région des Grands Lacs avec Monsieur Célestin Boutchekou-Deroy, professeur en économie et chef du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. Professeur Célestin, il y a une question de Maître Gaston Gandou qui parle de la suppression des barrières douanières. Est-ce que c'est le cas avec ce projet entre la RDC et le Burundi? Et il a parlé des zones de libre-échange, par exemple la ZLECAF, etc. Et est-ce que l'accord signé aux USA entre la RDC et le Rwanda également va permettre l'intégration et la facilitation du commerce transfrontalier? Vous avez la parole.
dans le, la RDC a signé un accord commercial avec le Burundi. Et l'accord qu'on avait signé en 2022 précise le contour de la mise en œuvre de cet accord. Parmi les points évoqués, il y a la question liée à la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires. Et donc, il faut un assouplissement de la traversée. Et sur ces, la digitalisation fait partie des activités que le projet va couvrir. C'est qu'on va travailler dans le cadre des Smart Border. Donc, il faudrait qu'on réduise l'interaction humaine dans le contrôle migratoire, tout comme douanière. Ça va permettre à ce que les échanges puissent être fluides. Et sur cette base, le projet finance donc les infrastructures, mais aussi la production des cartes électroniques pour les commerçants transfrontaliers qui pourront traverser en utilisant seulement de cartes électroniques. Je crois que j'ai répondu. Cela concerne même aussi la question sur les mesures que le gouvernement a prises pour rendre le commerce plus ou moins fluide. Mmh. Et quelles sont les conséquences? C'est que un commerce qui est rendu facile, parce qu'en matière de facilitation, il y a la modernisation des infrastructures et de l'information, permet à ce que les commerces deviennent profitables aux usagers. Non seulement on améliore les recettes, mais aussi on produit des données statistiques et en fin de compte, les revenus des commerçants transfrontaliers va se retrouver améliorés. Mmh. Et pourquoi les femmes? Les commerces transfrontaliers concernent à 80% les femmes. Et donc les oublier serait oublier ces acteurs dynamiques du commerce transfrontalier.
Déjà, par exemple, à Uvira, les femmes d'Uvira, qu'est-ce qu'elles traversent souvent vers le Burundi pour aller vendre?
Oui, elles traversent régulièrement pour aller vendre. Mmh. Si vous y arrivez déjà à 7h30, vous allez trouver une ligne d'attente très longue, en train d'attendre ou en train d'effectuer les questions migratoires.
Bien, et il y a une question, comment faire pour réduire les tracasseries au niveau des postes frontaliers?
Oui, je crois que j'ai donné la réponse, parce que notre projet, c'est l'ordre opérationnel existe et fait des efforts pour résoudre ces problèmes.
D'accord.
Et donc les services qui doivent fonctionner à la frontière sont bien connus, et nous essayons de les appuyer pour que, en termes de renforcement des capacités, mais aussi en termes d'équipement.
Bien, on va donner la parole à un autre auditeur en ligne, Christian Politassi de Kinshasa. Bonjour. Christian Politassi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci de la parole accordée. En tout cas, je suis d'accord de ce que vient de dire mon prédécesseur. Mmh. Et ce que moi également, je voudrais ajouter. Il a vraiment épinglé les acteurs clés, même de cette activité, je dirais même des commerces en général. Parce qu'en RDC, en tout cas, c'est plus, il y a d'autres secteurs, beaucoup plus certains biens, c'est plus des femmes qui sont à la base, qui font ces commerces et qui nourrissent non seulement les consommateurs, mais aussi leurs familles. Et donc, concernant les commerces transfrontaliers, je pense que au-delà de l'aspect sécuritaire qui, du reste, demeure le point culminant des développements de toute activité économique, il y a également l'autre aspect sur la diversification de l'économie. Et donc, dans ces rendez-vous du donner et du recevoir, pour que nous allions, étant qu'acteurs majeurs, il faudrait que nous soyons d'abord capables de pouvoir donner à nos biens une certaine valeur ajoutée, c'est-à-dire que nous n'allions pas avec nos biens de manière brute, mais que nous soyons capables
de les transformer. De les transformer.
Tout à fait. Tout à fait. La transformation locale donnerait un certain nombre de valeurs ajoutées à nos biens. De cette manière, lorsque nous allons dans ce lieu du donner et du recevoir, nous allons proposer du bien et vous voyez que nous serons quand même une sorte de solution en termes d'export et import. Mais si nous allons avec des biens non transformés, vous voyez que le pays sera transformé en une sorte de dépôt qui ne va tout simplement recevoir
merci les beaucoup, Christian.
D'autres pays.
D'accord. Merci beaucoup, on n'a plus beaucoup de temps, on est presque à la fin de cette émission. Professeur Célestin, votre réaction?
Ce que je peux dire donc, c'est de dire que le projet avance et améliore les conditions des bénéficiaires, parce qu'il y a des bénéficiaires dans le projet, il y a les entrepreneurs, mais aussi les agences aux frontières, qui vont commencer à fonctionner dans des infrastructures acceptables, permettant de traiter les migrants d'une manière humaine.
Bien, professeur Célestin, le mécanisme des subventions va bientôt démarrer, je pense que c'est la semaine prochaine, le 15 août, il y aura la cérémonie officielle des lancements. Alors comment les coopératives, les associations des femmes, les coopératives, les jeunes entrepreneurs dans les secteurs agricoles peuvent se préparer, les PME aussi, comment se préparer ou préparer leur dossier pour bénéficier de la subvention?
Je veux dire que les PME agricoles doivent vraiment tenir compte du fait qu'on peut bénéficier d'une subvention étatique et lorsqu'on est reconnu par l'administration, donc publique. Et donc, première chose, ces organisations doivent avoir des documents qui sont validés d'une manière officielle par le ministère du Commerce extérieur, comme ça concerne les commerces, mais aussi elles doivent fonctionner comme des vraies associations, des vraies coopératives. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait des coopératives des noms, mais en termes de gouvernance, ça pose problème.
Bien, merci beaucoup, professeur Célestin. On est arrivé à la fin de cette émission. Un message avant de terminer rapidement en quelques secondes, un message à tous les commerçants qui vous écoutent en ce moment à Uvira, à Ijui, Sangé, Luvungi, Kavimvira et ailleurs.
Oui, je voudrais seulement dire aux commerçants transfrontaliers, aux agripreneurs de se rassurer que le projet est là pour eux. Nous allons les appuyer en fonction des moyens que le gouvernement a mis à la disposition du projet.
Bien, Célestin Boutchekou-Deroy, professeur d'économie et chef du projet de facilitation du commerce et d'intégration dans la région des Grands Lacs, PFC IGEL. Merci d'avoir participé à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup. Nous vous remercions. Je remercie mes collègues de l'équipe de mise en œuvre.
Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée.